salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins, l'école à la radio, nous sommes là pour vous à RFI tant que les portes des écoles n'ont pas rouvert, pour apprendre tous les jours, pour engranger un peu de savoir à conserver le plus longtemps possible dans sa tête. Aujourd'hui, à la demande de bon nombre d'entre vous, nous allons faire des expériences scientifiques à hauteur d'enfants en école primaire. Nous sommes en ligne avec un ancien professeur de physique chimie, passionné de science. Bonjour Gervais Loem.
Bonjour Emmanuel Bastide.
On est ravis de vous retrouver. On vous a entendu il y a fort longtemps à l'époque de l'école des savoirs. Vous avez enseigné en collège, lycée et vous avez fondé une association il y a 27 ans pour la promotion des sciences auprès des jeunes.
Oui, ceci pour contribuer à accroître l'appétence à la pratique des sciences. Donc pour ça, cette association de solidarité internationale et lutte scientifique nous a permis d'intervenir aussi bien ici en France qu'en Afrique sur un certain nombre de sites pour faire des sciences et faire aimer surtout les sciences aux plus jeunes comme aux plus grands.
Ouais, et ce qui est bien, c'est qu'on entend déjà l'enthousiasme dans votre voix. Cette association s'appelle l'AESCO. Donc, alors quel est le programme aujourd'hui, Gervais ? Un programme, je vous le rappelle, qui doit être accessible aux élèves en école primaire.
Alors, aujourd'hui, le programme, c'est deux expériences. Une première expérience, l'air et l'eau. Et la deuxième expérience, nous le verrons, mais on va commencer par l'air et l'eau. Eh bien, pour cette expérience, nous aurons besoin d'un certain nombre de matériel, mais nous recommandons d'être à deux, parce que vous savez, quand on manipule, on est en binôme.
Donc, alors, on a posté la liste du matériel, Gervais, sur notre page Facebook hier. Je vais redonner la liste brièvement. Il faut, ce sont des objets très simples, un récipient transparent d'un litre, par exemple un grand bol, une sorte de saladier, une bouteille d'eau, peut-être une bouteille d'eau en plastique, deux verres transparents, parce que pour la deuxième expérience, il en faudra un deuxième.
Voilà.
Deux verres transparents, une cuillère ou un bâton pour mélanger. Et un colorant, ça peut être une vieille cartouche d'encre que vous ouvrez, un vieux bic que vous ouvrez pour colorer l'eau. C'est pas obligatoire, mais ça peut être pas mal. Et une feuille de papier grand format A4 ou une feuille de papier journal, ça marche aussi. Donc, un récipient transparent d'un litre, une bouteille d'eau, deux verres transparents, une cuillère ou un bâton, un colorant et une feuille de papier.
C'est parfait.
Et à la récréation, ensuite, un conte, l'histoire de Jabundao, qui est écrit par Jean-Jacques Vdida. Et enfin, les conseils aux parents du psychologue Ibrahima Girou, qui est à Dakar. Et l'émission est réalisée chaque jour avec une équipe en confinement et en studio. Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita et moi-même, votre serviteur. Et bien sûr, on attend vos réactions sur notre compte WhatsApp 331 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est tout proches.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Et nous avons une nouvelle conteuse dans le club de l'école à la radio. Oumou a 7 ans et elle aime partager des histoires et des conseils de vie.
Bonjour, je m'appelle Tandia Oumou. Je suis au CE1 et du Bénin. Il était une fois deux petites filles s'appelaient Anne-Charlotte et Anastasie. Elles étaient gentilles. Un jour, deux hommes les rencontra et ils leur dit « Pouvez-vous nous accompagner dans notre maison ?» Et leur dit « Oui, mais on ne vous connaît pas. » Et là, un ami disparaît et un policier arrive. Le policier arrête ces deux hommes. Maintenant, la princesse retourne chez elle. Fin.
Coucou, bonjour les amis. Moi, c'est Seyda Hamid Moussa du Tchad.
J'ai une chanson pour vous. Quand on était petit, chaque nuit on sortait pour s'amuser. Et pour appeler les amis, on chantait. Yar Helena, Amou Narabo, Kama Maratu, Adou Tikopisku Kabazet. Yar Helena. Comme ça, tous les amis sortent. Et puis on chante. Après, quand on se réunit, on commence à s'amuser.
En référence à la leçon de Sarah, c'est vrai que vous avez été très nombreux à nous poster des chants, mais on aimerait avoir les traductions pour en faire profiter tous les voisins et voisines.
Et bonjour tous les 7 milliards de voisines. Moi, je m'appelle Dramé Bakari, je suis malien. En ce moment, je suis à Paris, France. Je vous écoute tous les jours, surtout les enfants qui vont prendre le cours de français avec les radios refils. C'est ça que je commence à apprendre le français, de parler. Ok, merci beaucoup. Au revoir.
Merci voisin. 7 milliards de voisines, comme il nous a appelé. Heureusement qu'on n'est pas 7 milliards de voisines, parce que le monde sans aucun voisin, quand même, ça serait triste. Hein. À quoi sert l'école? Les parents, les adultes, on diffuse aussi vos témoignages. Racontez-nous précisément quels sont les savoirs scolaires que vous utilisez aujourd'hui dans votre métier pour en faire profiter les enfants, pour qu'ils comprennent à quoi sert l'école. Jean-Marc a posté la réponse suivante. Il est à Dakar en tant que chef de projet dans une banque. Mes cours de l'école primaire m'ont permis de m'exprimer devant mes collègues, de rédiger correctement des courriels. Et bien entendu, de calculer aussi ce que je dois gagner à la fin du mois. On est bien d'accord, Jean-Marc. En tout cas, les enfants qui postent des messages pour l'école à la radio, je crois que ça y est, ils savent s'exprimer en public. Il n'y a pas de problème. Jacques à Lubumbashi nous dit « Votre émission aide les élèves à retrouver des matières qu'ils avaient déjà oubliées, mais permet aussi aux petits de se familiariser avec la radio en développant le sens de l'écoute, de l'attention. Aussi, ils pourront aimer les programmes diffusés à la radio autant que ceux diffusés à la télé. » Ouais, on va pas faire quand même la compétition, d'autant que notre voisin de bureau, c'est France 24 et on les aime bien. Mais c'est vrai aussi qu'on est content d'évangéliser pour la radio notre petite paroisse, les jeunes génération. Allez, je vous rappelle notre numéro de compte WhatsApp pour poster tous vos témoignages, vos réactions sur le direct de l'émission. 33 1 84 22 71 71.
Sept milliards de voisins.
L'école à la radio.
Faire des sciences avec vous, Gervais L'OMB, en direct sur RFI, 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Faire des sciences, Gervais, c'est bien manipuler, observer, dessiner, décrire. On va faire tout ça pendant cette leçon.
Oui, on va faire tout ça. Et en notant bien que l'objet ici, c'est d'arriver à bien comprendre qu'on peut faire des sciences avec des choses très très simples, c'est accessible à tout le monde, quel que soit le niveau, et que, ma foi, nous faisons souvent des sciences sans nous en rendre compte. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons choisi des expériences assez simples, mais dont les enseignements pourraient être de très très bon niveau.
Alors vous le disiez en début d'émission, l'idéal serait d'être à deux, mais bien sûr les enfants, si vous êtes tout seul devant votre poste de radio, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec nous, et Gervais est là pour vous guider. Mais si vous êtes deux, avec un frère, une sœur, peu importe, il y en a quoi? Un qui va manipuler pour faire l'expérience et l'autre qui va dessiner?
Oui, qui va dessiner et aussi prendre des notes, parce que au fur et à mesure de nos expériences, on notera une phrase, deux, pas 25, hein, c'est pas une rédaction, mais il sera nécessaire de faire des dessins annotés, de noter une ou deux phrases qui permettraient justement de rendre compte de ce qu'on a réalisé et surtout des questions qu'on s'est posées.
Oui. Alors, on va démarrer. Donc, il y en a un qui a sa feuille, son crayon et qui est prêt à faire des schémas et l'autre qui manipule. Par quoi on commence, ouais. Gervais?
Eh bien, on va commencer par cette expérience sur l'air et l'eau. Nous avons dit déjà qu'on avait besoin d'un récipient transparent, d'une bouteille d'eau, d'un verre, d'une cuillère, de colorant et d'une feuille de papier A4 qui sera coupée en deux d'ailleurs. Mais bref, voilà. Alors, la manipulation, c'est comme ça qu'on appelle ce qu'on va faire maintenant, elle va consister à verser la moitié de la bouteille dans un grand récipient, c'est-à-dire le récipient que nous avons pris, le bol, un grand bol. On va verser cette eau dans le récipient. Puis, nous allons laisser tomber quelques gouttes. Alors, on va dire trois gouttes d'eau, plutôt trois gouttes de cartouche d'encre dans cette eau. À l'aide de la cuillère ou un morceau de bois, nous allons agiter. Et d'ailleurs, en la matière, on ne l'appellera plus cuillère ou bâton, on va l'appeler agitateur.
Ouais.
Il existe des agitateurs en bonne et due forme hein, au laboratoire, mais c'est bien de l'appeler comme ça, agitateur. Nous allons agiter tout ça. On constatera que cette eau, qui était transparente, elle va devenir colorée, la couleur que vous voudrez.
Alors, vous avez versé donc l'eau, les quelques gouttes d'une vieille cartouche d'encre, et forcément, donc, votre eau est en train de se colorer, et vous avez mélangé.
Voilà. Maintenant que nous avons cette eau colorée, nous prenons le verre, en dirigeant l'ouverture vers le bas, et nous allons l'introduire dans le bol d'eau colorée.
Donc, le verre à la tête en bas, et
voilà.
Il rentre dans l'eau.
Oui. Et on va jusqu'au fond du bol.
Oui.
Et on regarde.
Oui.
Question, qu'est-ce que l'on constate? Alors, on peut regarder sur le côté latéral ou regarder au-dessus du verre.
Qu'est-ce qu'on constate? Alors, évidemment, si vous n'avez pas de colorant, c'est pas grave, hein, mais ça va être moins visible.
Voilà. On est bien d'accord. Et si le récipient n'est pas transparent, là encore, c'est pas grave, on peut le voir en regardant au-dessus du verre.
Ah oui, parce que vous avez bien un verre transparent. Et
transparent,
là, qu'est-ce qu'on remarque? Que se passe-t-il à l'intérieur du verre?
Eh bien, il se passe, semble-t-il, quelque chose d'assez surprenant. Le verre reste vide. L'eau colorée n'est pas entrée dans le verre.
Alors, si l'eau colorée n'est pas rentrée dans le verre, qu'est-ce qu'il y a dans le verre, dans le fond?
Eh bien, oui, c'est assez surprenant. On serait attendu d'avoir l'eau rentrée tout de suite dans le verre.
Oui, oui.
Eh bien, non, il n'entre pas. Mais s'il n'entre pas, c'est que ce verre contient déjà quelque chose, il n'est pas vide. Eh bien, ce verre contient de l'air. C'est cet air-là qui empêche l'eau colorée de rentrer. Et dans le verre.
Mais d'habitude, si on veut plonger un verre dans de l'eau, on va le plonger, il va être un peu couché, hein, il va être en position latérale. Et là, l'eau va rentrer dans le verre. Quand on veut se servir de l'eau avec un verre à partir de l'eau qui est stockée dans une bassine, par exemple. Tiens, j'ai soif, je prends un peu d'eau. L'eau rentre bien dans le verre. Alors, pourquoi là, quand on le rentre la tête en bas, bien droit, eh bien, l'eau ne chasse pas l'air?
Eh bien, instinctivement, et vous l'avez dit, Emmanuel, vous prenez le verre, vous avez une forme, vous avez une façon de prendre l'eau avec l'ouverture vers le haut et une partie dans l'eau. Comme ça, vous pouvez le récupérer. Alors que là, non. Là, vous avez pris le verre, vous l'avez introduit dans le bol en emprisonnant l'air qu'il y avait dedans.
Oui.
Donc, cet air n'est pas sorti.
Alors, les enfants, j'espère que vous êtes bien en train de dessiner donc le saladier, le grand bol d'eau. Vous avez mis un niveau pour bien marquer l'eau, le niveau d'eau. Vous pouvez même colorier l'eau en bleu pâle, par exemple, hein, si votre eau, vous l'avez colorée avec une cartouche d'encre. Et ensuite, vous dessinez le verre qui est entré dans le bol d'eau.
Voilà.
Et bien sûr, attention, à l'intérieur du verre, on ne colorie pas, puisque le verre reste rempli d'air. Alors, le rien, c'est bien de l'air. Hein.
Oui, c'est de l'air. Alors, c'est un peu surprenant. Alors, nous allons faire une espèce de vérification de ce qu'on vient de faire. Cette fois-ci, on ressort le verre, on essuie les bords pour qu'ils soient bien secs. Et cette fois, on va prendre notre journal ou bien notre papier A4, notre feuille de papier A4 que nous allons froisser de façon à le faire tenir dans le verre, en tout cas au fond du verre.
Mmh. Donc ça devient une boule de papier qui est coincée au fond du verre.
Voilà.
Qui ne dépasse pas du verre, on est bien d'accord.
Non.
Hein.
Voilà, on est bien d'accord, il ne dépasse pas le verre. Eh bien, une fois de plus, nous allons retourner le verre. On constatera que le papier froissé dans le verre, où le journal froissés dans le verre ne tombent pas, ils restent bien coincés dans le verre.
Oui. Bon, jusque-là, c'est normal. Jusque-là, voilà. C'est normal. Le papier tombe pas, il est voilà, il a épousé, il est rentré dans le verre, il reste coincé. Mais ensuite.
Voilà. Et ensuite, on introduit à nouveau ce verre dans le bol d'eau colorée comme tout à l'heure. Même remarque, le papier n'est pas mouillé. On peut l'apercevoir en regardant au-dessus ou bien latéralement. Le papier n'est pas mouillé. On attend quelques instants. On ressort le verre et on remarque que ouais. Le papier qui est à l'intérieur n'est toujours pas mouillé.
Ça, c'est quand même incroyable, hein, parce que je suis désolée, mais on plonge une boule de papier dans de l'eau, hein, le papier tout de suite absorbe l'eau. L'eau, on a l'impression qu'elle pourrait rentrer sous la fente du verre qui est posé au fond. Enfin, ça semble quand même incroyable.
Oui, et là, ça nous permet de se dire que finalement, l'eau n'est véritablement pas entrée dans le verre. Donc, il y avait quelque chose qui l'avait empêché d'y entrer. Quoi ? Eh bien, de l'air.
Eh bien, c'est toujours l'air.
Ce verre, oui. Donc, autour de nous, en tout cas dans ce verre-là, qui nous paraissait vide, eh bien, ce verre n'était pas vide, il contenait de l'air. Autour de nous, il existe l'air, cet air qui est invisible, qui est transparent, que nous respirons. C'est l'air qui empêche, en fait, à l'eau d'entrer dans le verre. Voilà.
Cet air qui est invisible, mais grâce à cette expérience, comme on a plongé le verre dans une eau colorée, eh bien, vous nous permettez, Gervais Lohembé, de voir cet air invisible à l'intérieur du verre.
Oui. Et cet air, il n'y aura pas que dans le verre, il n'y a pas qu'autour de nous. Eh bien, cet air va occuper il va monter jusqu'à une altitude de 50 km environ au-dessus de la surface de la Terre. Cette partie va s'appeler l'atmosphère. On dira donc que la Terre tout entière est entourée d'une couche d'atmosphère. C'est cette air qu'il y a autour de la Terre jusqu'à à peu près 50 km d'altitude.
Alors, atmosphère, donc, oui. C'est le même air, hein, c'est exactement le même air que ce que vous nous avez montré à l'intérieur du verre.
Oui, c'est cette atmosphère, c'est le nom qu'on va donner donc, à cette couche gazeuse qu'il va avoir autour de la Terre. Donc, nous allons quand même relever quelques mots-clés aujourd'hui. Nous avons parlé de invisible, l'air est invisible. Nous avons aussi noté le mot atmosphère.
Touche. Alors, attention, hein, atmosphère, A-T-M-O-S-P-H-E, accent grave, R-E. Donc,
voilà.
Tout ça doit figurer sur le dessin, sur le schéma. Hein.
Oui, et on doit le noter. C'est le vocabulaire qui est lié à ce que nous venons de faire. Alors, vous allez peut-être me dire, et après, eh bien, ce cahier que nous avions pris dès le début, nous devons faire quelques schémas à noter, c'est-à-dire en disant, on fait le dessin, on dit ça c'est le verre, et puis là c'est le bol, ici c'est de l'air, et là c'est de l'eau colorée. Voilà, ce schéma à noter, puis rédiger deux ou trois phrases de conclusion.
Les observations, donc.
Voilà, les observations, puis les conclusions.
Voilà, l'eau ne rentre pas dans le verre. La conclusion, le verre est rempli d'air.
Oui.
Le même air qui gravite, qui est autour de la Terre, jusqu'à 50 km d'altitude. 50 km ou 50 000 mètres. C'est pas rien.
Non, c'est pas rien. Alors, une petite chose quand même. Vous allez me dire, oui, mais on fait quoi avec tout ça? Parce que bon...
J'allais vous le dire.
Oui. Eh bien, ça permet de savoir, par exemple, que le soir, comme cette couche d'air est invisible, eh bien, on peut voir les étoiles, on peut voir la lune. Mais le problème, c'est que le jour, on ne voit plus la lune, on ne voit plus les étoiles. Eh bien, parce que cette couche d'air n'est plus transparente et à ce moment-là, le ciel nous paraît bleu. Alors, si le ciel est bleu, c'est justement parce qu'il y a cette couche d'air autour de nous qu'on ne peut plus voir au-delà le jour.
Oui, alors là, je reconnais bien le passionné d'astronomie. Mais on a une deuxième expérience à faire, Gervais, et le temps passe.
Oui, alors dans cette deuxième expérience, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons reprendre le récipient que nous avions, transparent, une bouteille d'eau, et cette fois-ci, pas un verre, mais deux verres transparents.
Oui.
Alors ce que nous allons faire, c'est ceci. Toujours à deux d'ailleurs, en gardant bien à côté notre cahier. Dans le grand bol transparent, nous allons verser la bouteille d'eau jusqu'à moitié de sa contenance. Nous allons introduire le premier verre dans le bol d'eau, en le recouvrant entièrement d'eau, comme vous y pensiez tout à l'heure, hein, quand on veut avoir de l'eau dans un verre, eh bien, on le penche, on met de l'eau et puis on le laisse au fond. Et donc ce premier verre est recouvert d'eau.
C'est ça. Et donc, il surnage hein, dans l'eau. Là.
Oui, il surnage. Il est dans l'eau. Donc, voilà, il y a plein d'eau.
Et donc, il n'y a pas d'air dans le verre cette fois-ci.
Non, pas cette fois. Nous allons ensuite retourner ce verre qui contient de l'eau et mettre l'ouverture de ce verre toujours dans l'eau, dans le fond. Nous allons prendre le second verre qui est vide cette fois et l'introduire dans l'eau, comme dans l'expérience de tout à l'heure.
Donc là, de façon à ce que l'air reste bien dans le verre et que l'eau ne rentre pas, on l'introduit tête en bas, comme tout à l'heure.
Voilà.
Ça veut dire, si je vous ai bien suivi, Gervais, c'est que j'ai deux verres côte à côte dans le fond du bol. J'en ai un qui est plein d'eau.
C'est ça.
Et j'en ai un autre qui est plein d'air.
C'est ça.
Ouais.
Eh bien, je vais les relever légèrement et
Tous les deux en même temps.
Les deux verres, oui. Je vais les rapprocher de façon à mettre l'ouverture de l'un, celui qui contient de l'air, en dessous de l'ouverture de l'autre.
Mm-hmm.
Et je vais constater quelque chose d'assez curieux. Eh bien, l'air qui est contenu dans le verre vide va passer... Enfin, je vais observer quelque chose. Qu'est-ce qu'on observe puisqu'il y a
Ah, le suspense
Oui, qu'est-ce que l'on voit quand on rapproche l'ouverture du verre contenant de l'air vers l'ouverture du verre contenant de l'eau.
Mmh.
Eh bien, on voit apparaître des bulles.
Eh oui, ça fait glouglou.
Oui, c'est ça. Qui vont, retenez bien le glouglou, on s'en servira à la fin. Donc, ça fait glouglou, il y a des bulles qui vont du verre contenant de l'air vers le verre rempli oui. d'eau. Et on constate quoi ? Eh bien, progressivement, le premier verre se remplit d'eau, tandis que le deuxième verre se vide. Nous avons transvasé l'air d'un verre à l'autre.
Ça veut dire que, concrètement, là, quand on est en train de faire cette expérience, le verre qui était plein d'eau va se vider de son eau pour se
oui.
remplir de l'air du premier verre ? C'est-à-dire qu'ils ont échangé leur contenu, finalement.
Pas complètement, oui. C'est ça, c'est-à-dire l'air qu'il y avait dans un verre va passer dans le second verre qui, lui, était rempli d'eau. Donc, le premier verre va se vider de son eau, tandis qu'il va accueillir l'air qui était dans le verre qui contenait de l'air.
Bon, alors là, les enfants, on est peut-être allés un peu vite. J'espère que vous avez eu le temps de dessiner, donc de commencer ce deuxième schéma. On a bien donc le grand bol, l'eau, le premier verre qui est vide, donc il n'y a rien, ça n'est pas coloré, on est d'accord, et le deuxième verre qui est rempli d'eau, puisqu'on l'a introduit de manière inclinée, donc lui il est rempli de l'eau colorée, si vous avez pu avoir du colorant, donc il y a un verre qui est tout blanc et un verre qui est coloré à l'intérieur.
Voilà.
Et ensuite en les approchant, on a, et en soulevant légèrement les deux verres, hein, on est d'accord ?
Oui.
On a ces bulles qui apparaissent.
Voilà.
Donc il faut dessiner les bulles hein, sur le schéma. Ce sont bien des bulles d'air.
Voilà. Donc là, nous avons fait la preuve que notre air, ce gaz, c'est un fluide. tout comme l'eau, on le verse. On peut verser de l'eau, tout le monde le sait, mais on peut verser un gaz aussi. Ce gaz, on l'a versé d'un verre vers l'autre. Donc, nous allons représenter ça, tout ça sur nos expériences et faire le constat suivant. On peut transvaser de l'air. L'air est un fluide, il est élastique. Et ce qui est intéressant également, vous avez dit, Emmanuel, glou-glou tout à l'heure. Mm-hmm. Eh bien, les bulles que vous avez vues s'échapper, c'est un peu ce que vous voyez quand vous faites chauffer de l'eau. À une température donnée, vous voyez glou-glou, ça veut dire qu'il y a de l'air qui est en train de s'échapper de l'eau. On dit l'eau boue.
Et pourquoi il y a de l'eau qui, il y a de l'air qui s'échappe d'une eau qui est en train de bouillir ?
Parce que l'eau est capable de dissoudre l'air. Il y en a une quantité, d'ailleurs c'est ce qu'utilisent les poissons. Eh bien, au bout d'un moment, quand vous voulez chasser l'eau, ou plutôt l'air de l'eau, mm-hmm. vous chauffez. Eh bien, quand vous chauffez, eh bien, vous allez voir, ça fait glou, 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 à partir d'une température donnée.
Voilà. Et là, on n'a pas eu besoin de chauffer. On a réussi à transvaser, à déplacer
Exactement.
De l'air dans un récipient plein d'eau. Alors, vous le disiez, l'air est fluide. C'est un deuxième mot qu'il faut noter dans les mots importants de cette séance. On a dit que l'air était invisible, que cette couche d'air s'appelait l'atmosphère. Hein, c'est le même air que ce qui entoure la Terre. Et il faut noter que l'air est un fluide, donc fluide, ça s'écrit F-L-U-I-D-E. Voilà, il faut bien noter ce mot. Et donc, on peut déplacer l'air, on peut le transvaser, tout comme l'eau, donc transvaser ou déplacer. Là aussi, c'est un mot qu'il faut faire figurer sur son schéma.
Oui. Nous venons de voir, Emmanuel, que sur des expériences comme celle-là, on a utilisé un matériel qui est très accessible, qui est à la portée de tout le monde, d'une part, mais les enseignements qu'on va tirer sont des enseignements quand même hautement scientifiques. L'atmosphère, 50 km de la Terre, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi on peut voir les étoiles le soir, parce que cette air est transparent le soir. Et qu'on peut transvaser l'eau. Et d'ailleurs, pour terminer, si l'eau est rentrée cette fois-ci dans le verre, c'est tout simplement que maintenant qu'on a vidé l'air, il n'y a plus rien dans le verre, et bien la couche d'atmosphère qu'il y a dehors a poussé sur l'eau, et bien l'eau est rentrée dans le verre.
Ouais, oui. Alors, ce qui est important dans toutes ces manipulations, c'est que bien sûr, il ne faut pas rester au stade de la manipulation. Bien sûr, c'est amusant, c'est un jeu, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière comme grand principe physique. Hein. Là, ce sont des principes physiques.
Absolument.
Et donc, ce qui est très important, c'est que les enfants, vous ayez pu faire les dessins, les petites flèches pour bien noter les mots de tout ce qui est représenté et que vous ayez pu décrire ce que vous avez observer, parce que la première étape, c'est bien d'observer ce qui se passe.
Voilà. Donc, une fois de plus, l'idée là, c'est d'apprendre des choses en s'amusant. Ça a l'air d'être un jeu, mais c'est totalement sérieux. Nous avons fait des observations, nous avons expérimenté, puis nous avons tiré des enseignements de ce qu'on a observé, on s'est posé des questions et on a eu des conclusions. Est-ce que nos conclusions sont bonnes ? Il s'agissait de savoir à quoi ça s'applique dans la vie quotidienne. La couleur du ciel, les étoiles visibles, l'atmosphère autour de nous.
Gervais Lohembe, on a encore un tout petit peu de temps. On peut faire une autre expérience avec un papier qui va être posé sur le verre, c'est ça ?
Oui. Alors, ceci est assez simple et amusant aussi. Et là, ça tombe à pic parce que nous sommes dans la poursuite, dans la cohérence parfaite de ce que nous avons commencé à faire. Alors, dans un verre, nous allons remplir, alors il nous faudra bien sûr un verre, le même, une feuille de papier, pratiquement le même, et une bouteille d'eau. Donc, nous avons déjà tout ça. Alors, ce que nous allons faire, c'est nous allons remplir le verre de l'eau que nous avons dans la bouteille. Nous allons le remplir à ras-bord. Nous découpons ensuite la feuille grand format A4, on la coupe en 4 et on la pose délicatement sur l'ouverture du verre.
Comme un couvercle, donc.
Voilà. Oui. On le pose délicatement. Normalement, il n'y a pas une goutte qui doit déborder. Ça doit pouvoir tenir, pratiquement être collé sur la surface. Si jamais ça ne se fait pas, recommencer.
Alors, c'est collé à cause de... Parce que le papier s'est humidifié, c'est ça ?
Voilà, hein, le d'accord. papier s'est humidifié et puis il a collé sur...
Puisque l'eau est remplie à ras-bord. Donc, le papier, voilà. forcément, est humide et il colle au verre.
Voilà. Et on pose délicatement la main pour s'assurer que ça colle. En prenant de l'autre main le verre, nous allons le retourner. Si vous avez bien manipulé, normalement, l'eau ne sort toujours pas. C'est-à-dire que vous avez une main qui tient le verre, l'autre main en dessous.
Attendez, le verre ne se vide pas, plouf, comme ça, de toute l'eau qui dégouline sur le papier ?
Ah oui, c'est mieux que ça. C'est-à-dire quand vous avez retourné le verre, vous enlevez la main de l'ouverture et vous allez constater quelque chose de très curieux. Que remarque-t-on ? Et oui, on attend un peu. L'eau dans le verre, le papier coupé en A4. Ouais,
bon, j'espère que vous n'êtes pas en train d'inonder la cuisine, hein, là, les enfants.
Oui, juste un verre d'eau, ça va. C'est un début de lavage. Hein.
Donc, voilà, l'eau reste dans le verre alors qu'il est retourné, simplement bloqué. L'eau est simplement bloquée par la feuille de papier humide mouillée.
Voilà, vous avez vu. Hein,
on n'a pas mis d'élastique pour fermer le papier,
non.
on n'a pas, on mis, a de pas colle, mis de colle, rien du tout.
Non, mais ça tient. L'eau reste retenu dans le verre simplement grâce ou par le papier, la feuille de papier. Et ça, vous pouvez même l'essayer, vous m'excusez, d'une feuille très simple, du sopalin, de quelque chose de beaucoup plus.
Mais attendez,
léger.
Comment c'est possible ça, Gervais ?
Eh bien, c'est possible simplement pour la raison suivante. Tout à l'heure, ensemble, nous avons découvert l'atmosphère, cette couche de gaz qu'il y a autour de nous. Eh bien, cette couche de gaz va peser sur nous. Ça s'appelle la pression atmosphérique, la pression de l'atmosphère. Et à cause de cette pression de l'atmosphère, eh bien, cette pression va s'exercer sur l'ensemble du verre, mais également en dessous, c'est-à-dire au niveau du papier.
Mais la pression de l'atmosphère qui s'exerce sous le papier pour retenir l'eau, elle est plus forte que le poids de l'eau quand on renverse le verre ?
Mais on est bien d'accord. C'est exactement pour cela. La pression est suffisamment forte pour retenir la totalité de l'eau dans le verre. C'est incroyable.
Ah oui. En effet, bon, les enfants, il faut nous poster absolument toutes vos photos, vos schémas, hein, bien sûr, des expériences. On a envie de voir si vous avez réussi vos expériences. Si ça n'a pas marché, expliquez-nous ce qui s'est passé pour qu'on puisse vous répondre. Gervais L'OMB, vous allez revenir très prochainement chez 7 milliards de voisins avec d'autres expériences, hein, j'espère.
Oui, absolument, ouais. Absolument. Je vous fais remarquer qu'il y a un nouveau terme qui vient d'entrer dans notre vocabulaire et à noter, en deux mots, à plus loin noter.
Ouais. Vraiment, parce qu'il nous reste quelques secondes.
Oui, c'est le mot pression atmosphérique.
Et voilà, on va bien sûr y revenir. Avant de se quitter, je voulais vous lire le message d'Aurélien au Bélin qui vous remercie pour cette émission, qui ouvre des horizons à mon petit garçon Hilarion qui s'intéresse de plus en plus à la radio et aux sciences. Super, merci beaucoup Gervais L'OMB. Quant à vous les juniors, hein, après toutes ces expériences et un peu de désordre dans la maison, vous allez vite ranger et puis on va se retrouver pour l'histoire du jour racontée par Héloïse Auria. Ce sera l'histoire d'une intrépide petite fille. À très vite.
À très vite,
it took me time to realize and admit that I wish I could have turned around before the break of the might be real hard to find my way now that the and now I'm running out of time, come kiss me. I get around your love before it kills me. I make a sound, make a sound so fine, can you feel me? I'm gonna try, cause I can make it.
chez 7 milliards de voisins, l'école à la radio. On est en direct sur RFI. All I know, c'est le nom de la chanson. Tout ce que je sais. Et vous en savez beaucoup, beaucoup désormais, les enfants. Et maintenant, une histoire racontée par Héloïse Oria, Djabundao, écrit par Jean-Jacques Vdida. Et c'est publié chez Didier Jeunesse.
Je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
Djabundao, un conte de Jean-Jacques Vdida. C'était une petite fille qui s'appelait Djabundao et qui adorait les nioules, ces petites noix succulentes qui tombent des palmiers et dont il faut casser l'écorce très dure pour les manger. Toute la journée, Djabundao cassait donc des nioules en chantonnant
Djabundao casse, casse ses nioules. Djabundao aime les nioules. Toc, toc, toc.
Un soir, alors que tout le monde était couché, Djabundao restait là, sur la place du village, à casser ses nioules. Soudain, au loin, Gaïndé le lion a rugi effroyablement. La mère de Djabundao s'est inquiétée et l'a appelée. « Djabundao, rentre vite à la case !» Mais la petite n'a pas voulu.
« Je ne rentre pas ! Djabundao casse ses nioules !»
Gaïndé le lion approchait et Djabundao chantonnait.
« Djabundao casse, casse ses nioules ! Djabundao aime les nioules ! Toc, toc, toc !»
Son frère lui a crié.
Djabundao, rentre vite à la case!
Mais une fois encore, la petite n'a pas voulu.
Pas question! Djabundao casse ses nioules!
Gaïndé le lion était maintenant à l'entrée du village. Et Djabundao chantonnait.
Djabundao casse, casse ses nioules! Djabundao aime les nioules! Toc, toc, toc!
Le père de Djabou lui a dit.
Djabundao, rentre vite à la case!
Elle a répondu.
Djabou refuse, pas question, je ne rentre pas. Ce n'est pas un petit matou de rien du tout qui va m'empêcher de casser mes nioules.
Brusquement, le lion s'est dressé devant Djabundao et d'une seule bouchée, il l'a avalé. Mais Djabundao est sorti par le derrière du lion et à son tour, elle l'a avalé. Alors le lion est ressorti par les fesses de Djabundao et il l'a ravalé. Djabundao a encore surgi par le derrière du lion et elle aussi l'a ravalé. Et chaque fois que le lion ressortait par les fesses de Djabundao et qu'il l'avalait, Djabundao ressortait par le derrière du lion et l'avalait. Enfin, elle a pris un noyau de jujube, l'a coincé entre ses fesses et le lion ne pouvait plus sortir. Ainsi, toute la nuit, Djabou a pu casser ses nioules.
Djabundao casse, casse ses nioules. Djabundao aime les nioules, toc, toc, toc.
Le lendemain, Djabundao s'est rendu sous l'arbre à palabres où se réunissaient le tribunal et les vieux notables du village. Devant tous, la petite s'est exclamée.
Tenez-vous bien, longue barbe et talons rugueux, car je pourrais bien vous surprendre.
Les vieillards ont rigolé.
Comment une fille minuscule comme toi pourrait-elle nous surprendre ?
Alors Djabundao a retiré le noyau de jujube d'entre ses fesses et Gaïndé le lion en est sorti. À sa vue, dans un grand envol de boubou, tous les vieillards se sont sauvés. Le lion a eu si peur lui aussi qu'il s'est enfui. Djabou s'est retrouvée seule. Alors elle s'est assise et s'est remise à casser ses nioules. Désormais, le village peut vivre en paix, car Gaïndé le lion s'éloigne dès qu'il entend le petit bruit sec que l'on fait en cassant les nioules.
Une histoire racontée par Héloïse Auria, Djabundao, écrit par Jean-Jacques Dida, chez Didier Jeunesse, à la mise en onde Romain Dubrac. Dans quelques instants, nous retrouvons Ibrahima Giroud, psychologue à Dakar, pour des conseils aux parents pour la vie en famille.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Milliards de voisins, l'école à la radio. Nous retrouvons Ibrahima Giroud pour parler de la parentalité. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel et bonjour aux voisines et aux voisins.
Vous êtes psychologue à Dakar pour l'UNICEF et vous allez nous expliquer aujourd'hui que éduquer son enfant ou éduquer ses enfants, c'est un métier à risque pour le parent et pour les enfants, mais que finalement il n'y a pas trop le choix. Il faut y aller en essayant de réduire les erreurs au strict minimum. Alors quel conseil simple vous pouvez nous donner, Ibrahima Giroud, ou plutôt quel piège à éviter dans ce métier de parent à haut risque ?
Merci beaucoup Emmanuel. Non, mais aujourd'hui, que des choses très très pratiques qui sont tirées de l'expérience quotidienne des parents que je reçois en consultation. Commençons tout de suite par du grand classique. Combien de parents disent à leurs enfants « tu dois m'obéir » et les enfants entendent ça, les enfants doivent rester et obéissance à leurs parents pour deux raisons. Ils doivent le respect pour tout ce que le parent a fait et continue de faire pour le bien-être familial, mais les enfants doivent également l'obéissance pour le projet familial qui est clair dans le discours du parent et qui n'a pas d'ambiguïté, qui n'est donc pas contredit par le comportement et les actes posés par le parent au quotidien. L'obéissance dans ce cas-là n'est pas inconditionnelle, mais résulte de ce que l'enfant comprenne le projet du parent et que le parent ait répondu de manière satisfaisante quand l'enfant semble lui demander « tu m'emmènes où ?»
Tu m'amènes où ? Oui, parce que c'est vrai que éduquer, ça signifie d'ailleurs conduire vers en latin. Donc les parents doivent être cohérents, si je vous ai bien compris, hein, Ibrahima Giroud. Respecter lui-même ce qu'il demande à l'enfant. Et si malgré tout, l'enfant ne le suit pas dans le projet que vous indiquez ?
C'est le deuxième point de notre chronique. Si nous parlons des tout-petits, on peut considérer que c'est dans l'ordre normal des choses, car souvent les tout-petits pensent pouvoir nous manipuler. Pour mieux entrer dans leur jeu, il faut en conséquence les laisser croire qu'ils peuvent nous manipuler. Ah. Vous créez, oui tout à fait, parce que ça vous permet de créer une étendue un peu de lignes vertes, de possibilités qui sont propices à leur développement, et qui fait que quand vous serez ferme et clair sur un point en disant non, donc sur les lignes rouges, votre enfant pourra mieux l'entendre et mieux l'accepter. C'est en comparaison de tout ce que vous avez accepté par ailleurs. Maintenant, s'il s'agit d'adolescents, le parent doit affirmer sans aucune ambiguïté son autorité, de sorte qu'il soit très clairement perçu chez l'ado et que le parent assume parfaitement sa position. Une fois cette clarté installée, vous rouvrez les portes du dialogue et réaffirmez le projet et le contrat familial.
Oui, c'est ce va-et-vient, hein, contrôler, ouvrir, refermer,
exactement,
réaffirmer le contrat familial. Un exemple concret, comment s'y prendre ?
Disons qu'il faut d'abord savoir que quand, en tant que parent, je donne un signal non ambigu, donc très clair, que j'assume mes décisions face à mon adolescent qui tente de challenger mon autorité, je viens de reprendre d'un seul coup toutes les cartes en main. Maintenant, si je garde les cartes, je serai le seul à jouer et les enfants deviennent observateurs. Et c'est un changement de position qui n'est pas bon pour l'autorité parentale, car normalement, ce sont les enfants qui jouent et les parents qui observent pour corriger.
Oui, donc ne pas garder toutes les cartes, sinon, comme vous dites, on sera le seul à jouer avec ses enfants. C'est pas terrible. Comment on fait alors, concrètement ?
Il faut réitérer le projet familial. On redistribue les cartes en invitant l'enfant à la relation d'avant, voire à une meilleure relation. Pour cela, le parent appelle son enfant pour lui parler sans l'humilier. Il lui pose des questions sur son comportement en acceptant toujours la possibilité que son comportement puisse résulter d'une incompréhension. Le plus important, ce ne sont pas les excuses ou les prétextes que l'enfant peut avancer. Dans ce cas, il ne s'agit donc pas, pour moi en tant que parent, de forcer mon enfant à reconnaître sa faute, ce que malheureusement on voit beaucoup de parents faire. Il s'agit plutôt, pour moi en tant que parent, de ne pas rater cette opportunité de la bêtise faite par l'enfant pour réaffirmer à mon enfant qu'il est important pour moi. C'est exactement pour cette raison que je n'accepte pas certains comportements. C'est parce qu'il est important. Et en faisant ainsi, je gagne deux choses. Je préserve la dignité de l'enfant puisque je ne l'humilie pas. Et j'ouvre un nouveau chapitre dans son développement personnel. Bien entendu, l'autorité parentale en sort renforcée.
Et un autre exemple concret pour les auditeurs, avant qu'on se quitte, parce que tout ce que vous avez dit est très important justement pour les parents.
Un dernier piège à éviter, c'est lorsque l'on fait des reproches à son adolescent, de donner le sentiment qu'il n'a jamais rien fait de bon. Il faut coûte que coûte ne pas tomber dans ces discours extrémistes qui ne laissent aucune place au nous, aucune chance au nous conjugal ou au nous familial, et donc aucune place au rêve ensemble.
Ibrahima Giroud, la question de la semaine à méditer après toutes ces analyses et ces conseils très pratiques, vraiment à mettre en pratique au quotidien avec ses enfants.
Emmanuel, voici la question. L'avenir sort du passé, comme le dit le proverbe africain. Et dans ce cas, comment convaincre mon enfant qu'un futur radieux l'attend si je le convainc qu'il n'a rien fait de bon de son passé ?
Ibrahima Giroud, merci beaucoup pour ces pensées à méditer. Votre chronique est à réécouter sans modération en podcast, comme toutes nos émissions, sur la plateforme de téléchargement ou sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Merci à vous, très bonne journée Ibrahima.
Au revoir Emmanuel.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
J'ai mis le nom 7 milliards, parce que nous sommes 7 milliards d'habitants sur la Terre, et voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
Demain, 7 milliards de voisins, nous serons de retour pour une nouvelle émission. À demain, les voisins.